Donc, merci.
Louange à Dieu, très haut Seigneur.
Le dimanche, Radio Notre-Dame célèbre le jour du Seigneur.
La paix soit avec vous.
En union de prière, avec des milliers de fidèles, votre radio vous permet de suivre la messe de Notre-Dame de Paris en direct de la cathédrale.
Évangile de Jésus-Christ,
il prit le pain, il rendit grâce.
La messe en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris, chaque dimanche à 18h30.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Vous êtes très sollicité et vos moyens sont limités. Aujourd'hui, nous vous demandons de faire le choix de Radio Notre-Dame. Parce que c'est un engagement utile, parce que c'est un média libre, parce que c'est la voie de la vérité et de la liberté, parce que c'est aussi une radio, il faut le savoir, qui ne perçoit aucune aide si ce n'est la vôtre. Envoyez vos dons au 11 rue Rosenwald, 75 015 Paris. Merci.
La voie est libre.
Sabine de Rosière.
Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre, une constante qui traverse les âges et dont l'actualité n'est pas avare. C'est l'infidélité, évidemment l'affaire DSK où l'épouse trompée reste malgré tout porte à réfléchir. Mais est-ce si simple, est-ce si admirable? Comment s'en sortir? Comment se reconstruire, réapprendre à faire confiance? C'est donc tout l'objet de notre émission ce matin sur l'infidélité. Pour en parler, je reçois Bénédicte Lustreau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère conjugale et thérapeute des couples et des familles au cabinet Mauxcroisé à Paris. Vous êtes notamment auteur de Humour et Vitamines pour notre couple aux éditions de l'Emmanuel. Elsa Cayade, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste et auteur de Un homme plus une femme égale quoi aux éditions Payot. Vous exercez à Paris. Et le père Cédric Burguin, bonjour mon père.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Metz et membre de la communauté de l'Emmanuel, enseignant à la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris. Voilà, comment surmonter l'épreuve de l'infidélité? On en parle avec vous ce matin. Comment apprendre à pardonner, trouver du réconfort, un équilibre de vie? 01 56 2 fois 44 2 fois. N'hésitez pas à appeler pour poser toutes vos questions ou témoigner. Mes invités vous répondent comme toujours. Alors, on va d'abord commencer par définir l'infidélité. Comment définir l'infidélité, Bénédicte Lustreau?
Alors, quand un homme et une femme décident de faire leur vie ensemble, hein, de s'engager, ils s'engagent à être fidèles l'un à l'autre. C'est-à-dire que dans l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, ils espèrent et ils s'engagent à ce que cet amour dure toujours. Voilà, c'est ce qu'on appelle la fidélité. La fidélité, elle n'est pas uniquement sexuelle. Aujourd'hui, on a une conception de la fidélité qui est d'avoir le même partenaire sexuel toute sa vie. La fidélité, c'est beaucoup plus large que la fidélité sexuelle.
Et alors, l'infidélité, Elsa Cayette.
Ouais. Racontez-moi. L'infidélité, à mon avis, la question de la fidélité, c'est une question de croyance. La question est autre, à mon avis. C'est pas une question... la question, c'est que l'homme ne peut pas être fidèle. Fidèle, c'est un mot éternel, c'est un mot dans l'absolu. C'est ni fidèle à soi-même, ni fidèle à l'autre. C'est être en devenir et se poser des questions sur ce qui se passe dans la relation. Le problème d'une relation de couple, c'est qu'on voudrait que ça soit absolu. On voudrait que ça soit éternel, sans question. Ce qui fait qu'en général, on a tendance à nier les problèmes de couple. Or, il n'y a pas de couple sans problème de couple. Et ce qui change une relation de couple, ce qui fait qu'un amour a une chance de réussir, parce que finalement c'est ça, c'est justement d'analyser les ratages. Parce que finalement, quand on se trompe, c'est quoi? C'est une façon de se dire, c'est une façon de prendre la faute sur soi pour ne pas se dire qu'on s'est trompé de personne. Et toute la question, c'est on veut pas se dire qu'on s'est trompé parce qu'en réalité, on veut pas se poser les questions, les problèmes d'une relation, de la relation à l'autre. Et retrouver finalement l'amour pour l'autre, c'est commencer à parler, commencer à réfléchir, commencer à voir sa part et la part de l'autre dans ce qui nous unit. Parce que c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'on peut avoir des grands absolus, mais tant qu'on ne réalise pas, on va pas dans son cœur, on va pas chercher dans son cœur ce qui va pas, ce qui pose problème, et ben finalement on peut pas rétablir une vraie relation.
Mon père Cédric Burguin.
La difficulté de la définition de la fidélité ou de l'infidélité, comme l'a dit madame, c'est que la fidélité est un devenir. Alors, on peut le voir d'un point de vue objectif et subjectif. Il y a des moments où on se dit « je suis fidèle », et puis il y a des moments où je dis « je suis infidèle ». Ça, c'est la partie objective. Mais il y a toute la partie subjective. Si vous reprenez, je vais faire un lien avec la parole de Dieu, si vous reprenez les 10 commandements, il y a des commandements qui sont négatifs, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et là, objectivement, on arrive à savoir si on est dedans ou pas. Et puis, la difficulté du commandement de l'amour, c'est qu'on n'a jamais fini d'aller au bout. Tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton Dieu comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, ce commandement de l'amour, on ne peut jamais dire qu'on y est complètement. Ça, c'est la première chose. Il y a la donnée objective et les données subjectives. La deuxième chose, c'est que je ne voudrais pas qu'on se cantonne à définir l'infidélité comme l'adultère. Parce que on peut être infidèle dans beaucoup d'endroits.
Donc il y a plusieurs sortes d'infidélité.
Alors, il y a le drame qui est l'adultère, qui est un vrai drame et une vraie souffrance. Et puis il y a toutes les autres sortes d'infidélité. Donc en préparation au mariage, je dis beaucoup aux couples, on peut être infidèle avec son travail, on peut être infidèle avec son ordinateur, on peut être infidèle avec son téléphone portable, on peut être infidèle avec ses enfants. Quand une mère est trop attachée à ses enfants et qu'elle les fait passer avant son mari, etc., etc. Il y a plein de domaines où on peut être infidèle à son conjoint. Et la question à se poser dans la fidélité et dans l'infidélité, c'est de se dire, est-ce que j'accepte de remettre mon conjoint en premier dans ma vie, même avant moi-même? Voilà.
Et alors, qui est-ce qui, pour être faire au niveau des chiffres, qui est-ce qui trompe le plus? Est-ce qu'il y a des statistiques, Elsa Cayet?
Peut-être que vous attendez que je vous dise que c'est l'homme qui se trompe.
Non, pas nécessairement, justement, parce que la tendance est plus inversée. Je ne sais pas, je ne connais pas les...
Ouais, non, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire.
Il y a eu clairement une évolution, c'est-à-dire que pendant très longtemps, c'était l'homme qui trompait la femme. Aujourd'hui, avec la femme qui sort du foyer et donc est beaucoup en contact avec d'autres personnes, il y a beaucoup d'infidélité féminine. La femme va chercher hors du foyer ce qu'elle ne trouve pas à la maison. Entre autres, l'écoute, parce que la femme, elle a d'abord besoin d'être écoutée, et voilà, souvent, son mari n'a pas le temps, ne prend pas le temps, et donc elle va chercher cette fameuse écoute ou être consolée à l'extérieur de la maison. C'est comme ça que ça commence pour la femme, alors que l'homme, pour lui, ça commence plutôt par un appétit sexuel, une attirance physique. Voilà, le démarrage, c'est souvent ça. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, et de femmes très jeunes, nous on voit, et même qui ont des enfants vraiment en bas âge, qui rentrent dans l'infidélité.
Pourquoi est-ce qu'on trompe?
Moi, à mon avis, justement, on trompe parce que évidemment, il y a une insatisfaction. Il y a quelque chose qui va pas. Mais c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de se dire, voilà, le truc fondamental, à mon avis, au lieu de se dire, d'aller chercher en soi-même et de se dire, qu'est-ce qui va pas avec l'autre? Qu'est-ce qui va pas? De quoi je manque? Pourquoi? Est-ce que j'en parle? Parce qu'en fait, finalement, quand on regarde les couples, finalement, c'est au départ un énorme élan, un vrai désir d'aimer, de part et d'autre. Parce que finalement, ce que l'homme veut, c'est de l'amour. Et rien d'autre. Ce qu'il veut, c'est ça. Il y a un énorme élan, il y a une énorme attente, et au bout d'un certain moment, il y a de la souffrance, il y a des manques, il y a de la déception, il y a de la frustration. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on attend de l'autre tout. On attend qu'il nous répare nos blessures. On attend de l'amour, quelque chose d'incomblable, parce que déplacé. Ce qu'on attend c'est son mari ou de sa femme, on attend qu'il répare les blessures passées, les blessures de l'enfance. Or, c'est pas possible. C'est-à-dire que si on les répare pas soi-même, on peut pas attendre de l'autre qu'il nous donne ce qu'on ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas pallier un savoir qu'on n'a pas. C'est-à-dire qu'on attend on attend de l'amour tellement. Parce qu'en fait, le rêve, même si là, on voit une société complètement superficielle avec les trucs internet et tout, mais c'est pas que le rêve ait déserté l'amour. C'est faux. Le rêve est toujours aussi intense. Sauf que ce qui manque, c'est une introspection. On peut pas aimer sans s'introspecter et sans parler. Parce qu'en réalité, voilà, le truc fondamental que je voulais dire et que j'ai pas dit, c'est qu'on a peur de parler. Pourquoi on a peur de parler avec l'autre? Pourquoi on a peur de lui dire réellement les choses? Voilà, ça va pas, ça va pas, moi je ne les retrouve pas, je ne suis pas d'accord, peut-être moi, il y a quelque chose qui ne va pas, mais vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à se lancer dans le sens et à être honnête, à essayer d'être en accord avec soi-même, avec l'autre? Et du coup, on fait semblant, et puis à la fin, on ne s'y retrouve plus et on trompe. Et alors, pourquoi on a peur? Parce qu'on a peur de la perte d'amour. Et finalement, à tellement l'anticiper, cette peur de la perte d'amour, on va la précipiter.
Donc, on tombe dans l'infidélité.
Je voudrais distinguer, parce qu'à mon avis, il y a plusieurs types de personnes infidèles. dans ce que je vois, soit en confession, soit en accompagnement au mariage, je voudrais faire cette distinction parce qu'elle est hyper importante. Il y a ceux qui sont infidèles, comme Elsa Cayette l'a dit, parce qu'ils ont un manque au sein de leur couple. Et j'allais dire, c'est les plus simples, entre guillemets. Je mets vraiment des énormes guillemets, parce que s'ils sont en manque, ils arrivent à mettre des mots sur leur manque. Qu'est-ce qui leur a manqué ? Est-ce qu'il leur a manqué des relations sexuelles et ils ont été voir ailleurs ? Est-ce qu'il leur a manqué une écoute, comme disait Bénédicte tout à l'heure, et ils ont été voir ailleurs, etc., etc. Bon, donc on met des mots sur les manques. Et puis il y a ceux, et c'est ça qui m'inquiète le plus aujourd'hui, qui sont infidèles par pathologie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, mais quand je dis peuvent pas, c'est je pèse mon mot au niveau de l'incapacité psychologique, ils ne peuvent pas rester dans une dimension de fidélité. Alors là, c'est beaucoup la dimension sexuelle qui est à prendre en compte. On n'est pas dans les pathologies quand on manque d'écoute ou de machin, enfin pas tout à fait. Mais cette dimension-là, je la vois de plus en plus. Moi, je vois des gens en confession qui reviennent toutes les trois semaines, mois, parce qu'ils n'arrivent pas à tenir. Ils vont voir ailleurs parce qu'ils ont un appétit sexuel ultra développé, parce qu'ils ont des pulsions qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, etc., etc. Et c'est cela qui m'inquiète le plus, parce que ceux-là sont dans une l'analyse comme ça, mais j'ai l'impression qu'ils sont dans une plus grande souffrance, parce qu'ils se sentent incapables à aller au-delà de leur chute. Et puis, ce qui m'inquiète le plus, c'est pourquoi notre société engendre-t-elle autant de gens incapables de rester fidèles ? Et ça m'inquiète et ça me pose beaucoup de questions.
Est-ce qu'on est plus infidèle qu'avant, Bénédicte Lussereau ?
Alors écoutez, ça, je pense que c'est difficile dans la littérature. Bon, il y a beaucoup d'histoires d'infidélité. Par contre, je pense qu'on est, il y a quelque chose au niveau de l'immaturité et de la perte du contact avec le réel qui est très forte et qui fait que beaucoup de jeunes partent dans le virtuel. Et là, pour le coup, l'invasion d'Internet y est pour beaucoup. Il y a un énorme changement psychique dans la construction des jeunes qui surfent sur Internet parce qu'ils en ont besoin hein, pour leurs connaissances, les infos, le boulot, etc. Et qui ne sont pas à la merci d'un clic sur un site de rencontre, sur un site porno. Et ça les fait basculer dans une vision de la sexualité qui n'est pas la vérité sur l'amour et la sexualité, et puis une difficulté à contenir leurs pulsions parce que ça vient exacerber leurs pulsions, et du coup il y a une vraie difficulté à canaliser. Enfin bon, c'est, on voit des gens qui sont réellement en souffrance avec cette difficulté à canaliser leurs pulsions.
Non mais c'est vrai qu'il y a une pousse, il y a une pousse sexuelle, il y a une pousse à la consommation et il y a une pousse dans cette société à l'obscène. Mais l'obscène dans le sens absence de sens. Rien n'a de sens. Et à partir du moment où rien n'a de sens, on se perd.
On peut tout faire.
Ouais, on peut tout faire, mais faussement. Finalement, il y a une aiguillage au faux. C'est que du faux. Et il y a une espèce de société prostitutionnelle où finalement tout s'achète, tout se vend. Et plus rien, tout ce qui est humain, c'est-à-dire tout ce qui est susceptible de s'élever, perd son sens. Et l'obscénité, elle n'est même pas tellement dans le porno. Dans ce pouce à la pornographie, l'obscénité, elle est dans l'absence de sens. Dans le côté, tout est acheté, tout ce qu'il faut. Il faut que ça soit rapide, pas intéressant, rapide à consommer, quoi. Et intellectuellement
l'autre
pareil.
L'autre est uniquement objet de désir.
Ouais. Ça, je voudrais rebondir parce que je trouve ça très juste et je le vois en accompagnement de couple. Si on reprend, strictement parlé, la relation sexuelle au sein d'un couple. On voit bien aujourd'hui cette perte de sens parce que aujourd'hui les jeunes n'ont pas des relations sexuelles pour s'unir et faire une seule chair, comme dit la Bible, et vouloir le bien de l'autre. On s'unit pour avoir personnellement du plaisir avec un autre. Et c'est ce qui fait que, au bout d'un moment, on est conduit à aller voir ailleurs. Parce que quand on est dans cette dimension d'esprit, quand on est dans cet état d'esprit par rapport à la relation sexuelle conjugale, du coup, juste avoir du plaisir pour soi, au bout d'un moment, on va se dire « j'ai envie de changer, j'ai envie d'essayer autre chose, etc. » Quand on ne veut pas d'abord le bien du conjoint, y compris dans sa relation sexuelle, du coup, on va avoir envie de changer et de faire d'autres expériences. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont poussés entre guillemets à l'adultère, parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas ce sens de la relation sexuelle. Moi, avec un peu d'audace et puis de franc-parler, Je dis souvent aux jeunes que j'accompagne en préparation au mariage, je dis, vous savez, aujourd'hui, la relation sexuelle dans notre société est réduite, vous me pardonnerez l'expression, mais je fais exprès de mettre les pieds dans le plat, elle est réduite à un acte de masturbation à deux. Et or, il n'y a plus ce sens de l'intimité conjugale. Et c'est ce qui pousse à l'adultère.
Et alors, oui, on parle beaucoup des jeunes là, mais moi je voudrais parler aussi des moins jeunes et de cette formidable crise du milieu de vie qui atteint beaucoup les couples, parce qu'aujourd'hui la vie en couple dure beaucoup plus longtemps qu'autrefois. Et à ce moment de la crise du milieu de vie de l'un ou de l'autre des conjoints, il y a ce retour à l'adolescence et à cette espèce de jeunisme qui fait que tout d'un coup, il y a le sentiment d'une perte de sens. Et là, il y a quelque chose à travailler. Alors, il y a des couples, des conjoints qui acceptent de travailler cette question et puis d'autres qui partent dans l'infidélité parce que c'est leur façon de résoudre leur mal-être et voilà cette aspiration à une liberté qui, dans le fond, n'est pas la vraie liberté, mais...
Est-ce qu'il y a une différence quand c'est un homme qui trompe ou quand c'est une femme? Est-ce qu'il peut y avoir une différence dans la démarche, Elsa Gayat?
C'est bizarrement, je vais vous dire quelque chose, mis à part sur le sexe justement, vous avez raison. Je pense que mis à part sur le sexe, ou les addictions sexuelles, c'est plus du côté homme quand même. Là où la femme, regardez, il y a des addictions de la même sorte, compulsives. La femme, ses addictions compulsives, elles sont sur la nourriture, sur quelque chose d'oral. Les hommes sur le sexe. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes, c'est pas après une femme qui court, c'est après leur sexe. Alors que les femmes, et c'est pour ça qu'elles trompent moins les femmes, parce qu'elles n'ont pas ce pénis qui les emmerde. Les hommes courent après leur sexe, en croyant courir après des femmes, et c'est pour ça que souvent ils disent qu'ils sont pas en réalité infidèles. Ils sont pas infidèles, c'est leur façon, il y a des hommes qui trompent leur femme, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais en réalité qui n'aiment qu'une femme.
La leur.
Qui n'aime qu'une femme, c'est leur femme, et ils vont la tromper comme ça, mais parce que c'est pas après les femmes qui courent. Les soi-disant donjons, on dit donjons, mais là c'est encore un reste de phallocratie, de machisme débile, c'est pas des donjons, c'est une maladie, c'est une souffrance réelle qui les pousse à consommer des femmes, mais c'est pas les femmes qui consomment. Ils courent après leur sexe.
Père Cédric,
C'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie différence entre l'infidélité masculine et l'infidélité féminine. Et je suis tout à fait d'accord avec Elsa Gayat. Pour l'infidélité masculine, il y a une vraie recherche de plaisir sexuel uniquement, indépendamment de la femme qui est en face. Voilà. Et puis, pour la femme, mon expérience me fait dire que c'est souvent une insatisfaction dans son couple, à plein de niveaux, y compris au niveau sexuel, qui fait que elle va voir ailleurs.
Donc l'homme, ce serait pas à cause d'insatisfaction.
Je trouve ça un petit peu rapide de dire ça comme ça. Moi, je vois beaucoup d'hommes qui, par l'infidélité, tentent de résoudre des problèmes personnels et une crise existentielle très profonde. Par exemple, suite à un mouvement dépressif après la perte d'un des parents, par exemple. Un homme qui perd son père et qui, du coup, perd ses repères. Et il trouve pas dans son couple le soutien qui va lui permettre de tenir, de rester étayé, etc. Et il va chercher ailleurs quelque chose qui va le rassurer sur sa virilité, sa paternité. Et puis, donc ça, je trouve que réduire l'infidélité masculine, quand même, à la... bien sûr, l'homme est plus tourné vers le sexe, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette dépression masculine qui parfois est très cachée, c'est-à-dire que on se rend pas compte que l'homme traverse une déprime, mais dans le fond, il peut avoir une vraie souffrance qui ne se dit pas. Et puis, j'ai perdu ma deuxième idée, c'est pas grave.
Eh ben, on va passer.
Ça me reviendra.
Ça va vous revenir. On a Hélène qui est en ligne avec nous. Bonjour Hélène.
Oui, enchantée. Bonjour.
Alors voilà. Nous vous écoutons.
Oui, disons que moi personnellement, je ma conviction. Alors j'ai presque 50 ans. J'ai eu 50 ans avec trois mamans différentes, et effectivement, je avec le recul que j'ai, mes convictions éventuelles, je pense pas qu'on puisse être, je m'inscris en contradiction avec les propos du prêtre qui est à l'antenne, qu'on soit fait vraiment pour être avec le même conjoint ou la même conjointe sur une durée extrêmement longue, enfin tout ça c'est très variable, et je pense pas qu'on puisse imposer un moule, et je refais simplement la remarque, c'est que dans le judaïsme, moi je suis issu d'une famille israélite, et dans le judaïsme on autorise le divorce, et d'ailleurs je pose la question pourquoi dans le christianisme on dans la religion catholique, où on n'autorise pas le divorce, qui correspond plus finalement à une certaine réalité de notre façon d'être. Je pense pas qu'on ait la même attitude, parce que la base d'une relation de couple, c'est quand même la sexualité. Je ne veux pas parler, bien sûr, je ne veux pas être vulgaire, mais s'il n'y a plus de sexualité, ça aboutit inévitablement, je pense, à plus ou moins long terme, à une séparation. Et les sentiments sont... Voilà, quoi. Donc, je pense pas qu'il faille... la sexualité, faut quand même pas l'oublier. Enfin, je veux dire, elle est quand même là pour favoriser l'union, la création de couple, et notamment... Le fait de le désir d'avoir un ou des enfants et de les élever ensemble, mais ça ne signifie pas forcément que l'on soit fait pour vivre toute sa vie avec la même personne. Enfin, c'est pas quelque chose qui doit être imposé ou être automatique. Enfin, moi, c'est ma conviction personnelle. Hein,
Merci d'être intervenu sur cette voie libre. Je vais laisser le père Cédric Burger répondre par rapport au divorce. Pourquoi chez les chrétiens, il est préférable de ne pas divorcer?
Mais écoutez, Jésus nous a laissé une parole claire, et sauf à arracher les pages de l'Évangile, je vois pas comment on pourrait changer d'avis. Il y a effectivement une prise en compte du divorce chez les personnes juives. Il y en a d'ailleurs une dans l'Église catholique. Hein. Je veux dire, la séparation de corps, qui est une disposition en droit canonique, reconnaît que dans certains moments, il y a de telles souffrances dans le couple qu'on permet une séparation. Il faudrait distinguer quand on parle de divorce et quand on parle de remariage. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Moïse, dans l'Ancien Testament, sauf à me tromper, il permet le divorce, l'acte de répudiation, ce qui ne veut pas dire qu'il permet le remariage. Bon, ça, c'est une autre question. Et Jésus, dans l'Évangile, quand ses disciples l'interrogent, ils lui disent « Mais pourquoi ?» Et Jésus dit « C'est à cause de l'endurcissement du cœur de l'homme que Moïse a permis cela, mais dans la volonté de Dieu, il n'en est rien. L'homme est fait pour quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, et ils ne seront plus qu'un. » Jésus a une parole très claire sur la fidélité du mariage. Alors, sauf à être infidèle à la parole du Christ, je vois pas comment l'Église pourrait changer. Et c'est pour ça qu'elle maintient la norme. Et je voudrais redire une chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte les souffrances des personnes qui divorcent. Je suis formé pour être juge ecclésiastique pour tout ce qui est nullité de mariage. Je suis déjà engagé dans certaines officialités. Je fais de nombreuses consultations et d'accueil de couples en souffrance. Et je vois bien, mais justement ces couples en souffrance, ils sont en attente d'une parole de vérité de la part de l'Église. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a des souffrances et qu'il y a des divorces qu'on doit forcément changer la norme générale. Et ça, c'est très important. Et on est beaucoup dans cette mentalité aujourd'hui. Parce qu'il y a des cas particuliers, parce qu'il y a des souffrances, il faudrait tout de suite changer les lois et permettre... un autre schéma de société. C'est pas le cas.
Est-ce que l'allongement de la durée de vie, comme Ilan a parlé de deux choses, donc celle sur laquelle vous venez de répondre, et puis il parlait de bah maintenant on vit 80-90 ans, est-ce que c'est nécessaire de vivre avec la même personne pendant toute la vie, père Cédric Burguin, et puis après j'aimerais que vous réagissiez aussi.
Moi je crois profondément que l'homme est fait au fond de lui-même pour être fidèle et pour se donner. Et un don, on sait bien, c'est une des définitions du don, c'est qu'il est sans retour. L'homme y aspire profondément, l'homme est capable de plus. Et aujourd'hui, moi je critique beaucoup notre société qui ne prend pas suffisamment l'homme au sérieux, alors que Dieu le prend au sérieux. Dieu dit à l'homme, tu es capable de mieux, tu es capable de plus, tu es capable d'être fidèle à ton épouse. Petite parenthèse d'ailleurs, je sais bien que je...
Il faut que je vous dise un truc.
Elsa Caillat.
Il faut que je vous dise quelque chose. C'est marrant parce que je crois que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une fois, je connais très mal la religion, mais je crois qu'il y a une fois où il y a une femme adultère, il y a une femme qui se fait lapider, et c'est là où Jésus dit... qu'est-ce qu'il dit?
Alors,
c'est
quoi la parole de... que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, et puis ensuite il s'adresse à la femme, il la relève, et il lui dit va et ne pêche plus.
D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose, si je me souviens bien, c'est qu'à un moment, quand il lui dit ça, quand il dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre,
ils partirent les uns.
Ah oui. Il se penche et il écrit avec son doigt sur le sol.
Oui, quelque chose qu'on n'a jamais su.
Oui. Mais ce qui est génial, c'est ça. C'est l'écriture. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il écrit. Et l'écriture, avec l'écriture, il y a une notion de compte. C'est la comptabilité. Mais ça va, à mon avis, pour moi, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est la lettre, il écrit. Et vous voyez, par exemple, en psychanalyse, il y a tout le rôle des mots. D'ailleurs, vous avez dit, à propos de... Vous avez dit, à propos de l'homme dont vous parliez, vous aviez dit, il a perdu son père, il était en quête de repère. Vous voyez le mot repère. Donc, la lettre, ça nous. C'est quelque chose qui nous, qui fait des nœuds. Et toute la psychanalyse, c'est dénouer, c'est d'entendre. Vous voyez, on passe le mur du son, nous, avec la psychanalyse. Voilà, l'au-delà, c'est le son. C'est par le son qu'on va dans la lettre et qu'on dénoue. Et la tromperie, c'est pourquoi on se trompe, c'est à cause des lettres. Et c'est, je trouve ça, mais ce truc-là, cette écriture du Christ, au moment où il parle de l'infidélité, ou demande aux autres, là, qui se prennent pour des dieux, et qui se permettent de lapider une femme, il leur dit. Et donc, en fait, moi, pour moi, ça va au-delà. C'est-à-dire que ça va au-delà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement. Ce qui vous montre, c'est qu'il n'y a pas, on n'a pas à juger. Il n'y a pas de jugement. Et quand on sort du jugement, la psychanalyse, c'est d'ailleurs, c'est sortir. Mais attendez, pourquoi voudriez-vous que Dieu juge ? Il n'y a pas de jugement. C'est une erreur. Il n'y a pas de jugement. Mais par contre, d'ailleurs, ce que je trouve l'important de la religion catholique par rapport à la religion juive, c'est la notion d'amour. C'est la notion d'enseignement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à prendre une parole au pied de la lettre. Il y a à y réfléchir.
Je voulais revenir sur ce qu'Elsa disait au début de l'émission, c'est-à-dire que l'amour, c'est quelque chose qui évolue. Il y a une évolution.
L'homme est en devenir.
Pour qu'un couple puisse rester dans cette fidélité à laquelle ils se sont engagés l'un et l'autre, il y a cet engagement à coévoluer avec l'autre. C'est-à-dire que quand on passe les âges de la vie, évidemment, il y a une transformation. C'est-à-dire que je suis pas le même à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans et à 70 ans. Et je ne suis pas le même, mais du coup, l'autre doit m'aimer avec cette évolution qui fait que je ne suis pas le même. Donc évidemment, si je reste accrochée au même amour que celui que je vivais à l'âge de 20 ans, évidemment, ça va casser. C'est-à-dire que si on veut durer dans la fidélité, il faut que l'un et l'autre des conjoints s'engagent à accepter d'évoluer avec son conjoint. Ouais. Et ce qui est compliqué, parce que les évolutions ne sont pas les mêmes. Quand il y en a un qui se convertit, eh bien, ça change les choses dans la vie, ça change la vision de la vie, ça change les priorités, etc. Ça peut être dur pour le conjoint. Ou alors, quand l'un des l'autre fait un travail thérapeutique, ça va bouger beaucoup de choses au fond de soi. Et du coup, dans la vie quotidienne, il va y avoir des changements. Et l'autre va être obligé, plus ou moins, de s'adapter à ces changements. Sinon, ça tiraille. Et c'est ça qui est intéressant dans le couple.
Voilà. Exactement. L'infidélité, on en parle ce matin avec mes trois invités. On marque une courte pause de publicité. On se retrouve dans 2 minutes.
La voix est libre.
01 56 56 44 44.
Prendre le temps de réfléchir, Pierre Moracchini vous propose chaque mercredi à 19h Matière à penser. Matière à penser, c'est une personnalité, une œuvre, un thème de réflexion autour de Pierre Moracchini. Tous les mercredis à 19h et le samedi à 11h.
Or ou métaux précieux, vous possédez peut-être des bijoux, montres, diamants dont vous souhaitez vous séparer.
À Paris, dans le 6e arrondissement, Recyclor achète en toute discrétion vos valeurs. Lingots, pièces cotées, diamants, platines, bijoux, montres, débris, ainsi que l'argent sous toutes ses formes.
Règlement immédiat après estimation, expertise gratuite.
Recyclor, 29 rue des Saints-Pères à Paris, dans le 6e. 01 42 60 24 24. 42 60 24 24.
Recyclor,
nous donnons un prix à vos valeurs.
Vous vous questionnez sur votre foi ? Que vous voulez mieux comprendre l'Église ? Que vous avez des doutes ? Sacrement, liturgie, écriture sainte. Chaque semaine avec un spécialiste, découvrez le sens des signes essentiels de la foi chrétienne. À quoi ça sert l'Église ? Des repères pour aller plus loin. À quoi ça sert l'Église ? Chaque mercredi à 14h30 et le dimanche à 20h.
Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cari fratelli e sorelle.
Pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du pape, chaque mercredi à 15h, retrouvez l'essentiel de l'audience du pape sur la place Saint-Pierre.
Bruno Courtois,
directeur général de Radio Notre-Dame.
Vous nous écoutez et vous appréciez nos programmes. Vous pensez que cette radio est utile pour défendre les valeurs du christianisme. Alors participez à notre aventure en nous soutenant financièrement, car Radio Notre-Dame ne perçoit aucune aide si ce n'est la vôtre. Envoyez votre don au 11 rue Rosenwald, 75 015 Paris. Merci.
La voix est libre.
01 56 56 44 44.
Et retour sur l'antenne de La Voix est libre. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on se demande ce matin comment arriver à pardonner l'infidélité de son conjoint, évidemment. 01 56 2 fois 44 2 fois pour en parler dans cette Voix est libre. Bénédicte Lussereau, qui est conseillère conjugale et thérapeute de couple et de famille au cabinet Mot-Croisé à Paris. Elsa Kayat, qui est psychanalyste et auteur de Un homme plus une femme égale quoi chez Payot. Et le père Cédric Burguin, qui est professeur à la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris. 01 56 2 fois 44 2 fois. On est en ligne avec Hélène. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Alors nous vous écoutons.
Oui, écoutez, ma question porte sur la place que vous accordez à dans l'intimité du couple à la régulation naturelle de naissance, et en particulier la méthode Billings, hein, dans la richesse de dynamisme et de créativité qu'elle apporte à cette construction de la relation tout au long de la vie. Personnellement, j'ai été témoin à la fois personnel et dans mon entourage et dans les couples que j'ai été amenée à rencontrer dans la préparation de fiancés, dans l'extraordinaire richesse que cela apporte et dans justement le sens que cela apporte dès le début du mariage sur cette construction dynamique où la fidélité est considérée effectivement comme un don total et irrévocable.
Alors, j'aimerais que vous répondiez, Bénédicte Lussereau, par rapport à ça.
Alors, c'est sûr que cette façon de vivre sa sexualité, d'abord, est une façon qui engage, il faut le dire, et qui permet à chacun des conjoints de réfléchir sur le sens de la sexualité et le sens de l'acte sexuel. Hein. Alors, c'est vrai que lorsque l'homme accepte de canaliser ses pulsions et de les mettre au pas du rythme du cycle de sa femme, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se dégage dans le couple et qui permet de construire plus profondément leur amour, parce que la sexualité n'est plus simplement l'obtention d'un plaisir physique, mais c'est vraiment quelque chose qui va faire croître la relation, c'est-à-dire que l'un et l'autre vont être centrés sur la personne de l'autre, dans un acte de don de soi-même à l'autre, et non pas dans une sexualité où je vais prendre. Voilà, donc il y a une vraie, progressivement, une vraie éducation de la sexualité au don de soi.
Père Cédric Burguin.
Ah bah, moi, je le vois dans les couples que j'accompagne, ceux qui mettent en œuvre les méthodes naturelles. Alors, je dis méthode naturelle parce que je ne prends pas parti pour l'une ou l'autre méthode, non pas parce que j'ai pas d'avis sur la question, mais je pense qu'ils y gagneraient à avoir une plus grande unité dans toutes les méthodes. Je ferme la parenthèse, mais le message est passé. Il y a le fait que on éduque sa sexualité. Aujourd'hui, on est dans une société qui est dans l'instantanéité et dans la pulsion. J'ai envie de quelque chose, je l'achète. J'ai envie de quelque chose, je le fais, etc., etc. Or, les méthodes naturelles permettent cette intégration de la sexualité, non pas comme une pulsion, mais comme une éducation du désir. Et ça demande, pour l'épouse, par exemple, beaucoup d'éducation de son désir, qui va s'unir à son mari, quand forcément son désir n'est pas forcément le plus développé. Et puis, son mari va devoir éduquer ses pulsions pour s'unir à sa femme quand les temps seront faits. Et c'est très important parce qu'on voit comment cette éducation permet un épanouissement de la sexualité, contrairement à tout ce que tout le monde nous dit. Les chiffres, par exemple, de l'OMS, moi j'aime bien les rappeler parce qu'elles mettent un peu un pavé dans la mare. Les chiffres de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, montrent que les couples qui suivent les méthodes naturelles ont des relations sexuelles plus régulières et plus longtemps tout au long de leur vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette éducation du temps où on s'attend et du temps où on s'unit. Alors que quand on utilise un moyen de contraception, on vit plus, je dis plus, pas tout le temps. Je voudrais pas jeter un anathème sur ceux qui utilisent des méthodes de contraception. Mais on vit plus dans l'instantanéité et dans la pulsion. Ce qui fait qu'il n'y a pas cette éducation du plaisir et du désir, et du coup on s'essouffle plus rapidement, ce qui, à mon avis, peut avoir comme conséquence l'adultère.
Donc c'est une méthode qui favorise la fidélité.
Alors, c'est une méthode quand même qui demande un apprentissage, qui demande un vrai contrôle de soi et qui demande un réel dialogue, une vraie communication en profondeur entre époux. Donc, c'est pas quelque chose qu'on met en place comme ça, voilà, de façon magique et tout. Ça demande une vraie maturité des deux personnes.
Mais vous voyez comment ces méthodes intègrent toute la globalité de ce qu'est un couple dans le dialogue, dans la communication, etc. On a dit tout à l'heure justement que l'adultère était parfois favorisé par un manque de communication, de dialogue, etc. Donc les méthodes naturelles vont être un enrichissement général pour le couple et pas simplement un art de vivre écolo pour être à la mode.
Alors quand on parle d'infidélité, quelles vont être les réactions des personnes trompées quand elles viennent de le découvrir, Elsa Kayat?
Bah écoutez, il y a certaines personnes qui s'écroulent complètement. Il y en a d'autres qui le vivent mieux. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui s'écroulent? Pourquoi cette... Parce que souvent, une tromperie, finalement, quand on la découvre, c'est-à-dire que la personne, au lieu de se révolter, de se dire, mais attends, c'est quoi cette histoire? Vas-y, parle de... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Etc. Elle va être complètement remise en question. C'est-à-dire qu'elle va se dire, s'il m'a trompé, ou si elle m'a trompé, c'est de ma faute. C'est que je suis pas à la hauteur, c'est que je suis nulle. C'est-à-dire que ça va atteindre le narcissisme, mais complètement. C'est-à-dire que la personne, s'il va fantasmer sur l'autre du même sexe avec qui il ou elle est trompé, il va fantasmer sur cette personne du même sexe et il va se remettre en question, lui, en tant que personne sexuée. Il va tout prendre sur les épaules. Et c'est ça qui peut faire qu'il y a des personnes qui se suicident. Il y a des personnes qui sont au bord du suicide quand ils apprennent ça. C'est-à-dire qu'ils prennent la faute sur eux. Et évidemment, c'est une finalement pour sauver l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont déçus. Et au lieu de faire tomber l'autre et de se dire, attends, c'est lui qui n'est pas à la hauteur, c'est eux qui vont tomber pour maintenir le fantasme de l'autre comme idéal. Ça, c'est vachement important.
C'est pour ça que je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure aussi par Elsa. Et j'étais pas tout à fait d'accord avec vous sur la question du jugement. Parce que quand une personne s'écroule, elle a justement besoin d'une parole de vérité. Ce que fait Jésus avec la femme adultère, il lui dit pas, mais ma pauvre petite, t'as des blessures, des trucs et des machins. Non, il y a eu objectivement une faute morale. Mais je te relève. Je le vois moi-même dans mon ministère de confession. Quand quelqu'un vient se confesser de ça, il a besoin de dire « je suis fautif ». Je ne suis pas là pour discerner toutes les conditions, les causes du fait qu'il est fautif, mais il reconnaît sa part de responsabilité.
Voilà, de responsabilité, et donc, tout à fait.
Exactement. Et ça, c'est très important pour ensuite conduire à la miséricorde. Je prends souvent un exemple au niveau juridique, parce que c'est ma formation. Le tribunal ne peut donner un jugement où il va prendre en compte les... Comment on appelle ça? Je perds mes mots. Quand on réduit la peine parce qu'il y a des causes qui font qu'on est moins responsable.
On va le trouver.
Si mon doyen de faculté m'entend, il va me taper dessus. On va prendre les circonstances atténuantes. Mais il peut y avoir circonstances atténuantes seulement s'il y a reconnaissance qu'il y a eu une faute morale au départ. Il y a un truc qui n'a pas été, mais ensuite on reconnaît les circonstances et on diminue la peine. C'est exactement ce que fait Dieu dans son tribunal, pardon, j'aime bien le mot, mais il commence par nous dire, oui, tu as été pécheur, mais ma miséricorde te permet d'aller plus loin.
Alors, par rapport à la réaction de la personne qui a été trompée, ces réactions, elles sont très différentes selon la façon dont la personne apprend l'infidélité de l'autre. Parce que de temps en temps, le couple est en crise depuis 10 ans, par exemple. Alors, il y a conflit, il y a des paroles blessantes qui sont échangées et tout. Là, il y a un terrain qui fait que la personne tombe peut-être des nues le jour où elle apprend l'infidélité, mais n'empêche que le terrain du couple était mauvais. Donc, Et puis il y a le couple où il y a zéro dispute, où apparemment tout se passe bien, et celui qui est infidèle, en fait, il a de l'avance sur l'autre qui est trompé. C'est-à-dire qu'il y a comme il y a une disproportion. Il y a celui qui est trompé qui tout d'un coup, mais c'est le tremblement de terre, le tsunami, quoi. Il tombe des nues, il n'était pas préparé. Donc il y a des circonstances très différentes. Voilà, pour celui qui est trompé, dans la façon dont il apprend l'adultère de l'autre. Et puis, il y a tout, aujourd'hui, alors les portables, Internet, c'est-à-dire que c'est assez étonnant, il y a des actes manqués, très certainement, vous me direz, que celui qui trompe va laisser des indices traîner pour que le conjoint trompé découvre l'adultère, parce qu'en fait, ça va soulager celui qui trompe de pouvoir enfin être en pleine crise avec le conjoint et éventuellement traiter la crise.
Mais tout à fait.
On a Marie-Christine qui est en ligne avec nous. Bonjour Marie-Christine.
Oui, bonjour. Je voulais poser une question. Donc c'est pas à propos de la fidélité, mais c'est surtout à propos du mariage. Je voulais savoir quand il y a des gens à qui le mariage est imposé, ou alors parce que il y a eu des siècles où c'était des mariages de convenance, des personnes de la même catégorie sociale, tout ça. En fait, je pense que Dieu a fait en sorte que on a chacun notre moitié sur terre, et si les gens se trompent au départ, après ils peuvent plus changer sous prétexte qu'ils ont été mariés, mais pas en suivant, parce que quand on se marie, qu'on suit tout le temps la volonté de Dieu, selon ses critères à lui et tout, mais si on se trompe ou on nous oblige, je sais pas comment ça se passe.
Je vais laisser le père Cédric Burguin répondre à votre question. Merci Marie-Christine.
Deux choses. La première, c'est que je voudrais tordre le cou à cette idée que Dieu a prévu notre moitié. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette interprétation spirituelle. Et je vois d'ailleurs beaucoup de jeunes aujourd'hui, plutôt cathos évidemment, qui sont incapables de s'engager dans le mariage parce qu'ils attendent que Dieu décide à leur place et leur dise si c'est le bon ou la bonne. Mais il n'y a pas de bon ou de bonne. Pour soi, il y a celle dont je vais décider quelle sera la bonne pour moi, dont je vais décider quelle sera la bonne pour moi, et Dieu s'engage avec moi dans ce choix en me donnant sa grâce d'être fidèle et d'aller plus loin. Première chose. Deuxième chose, cette dame parle des mariages de raison, etc. Moi, je voudrais rappeler que l'Église, justement, pour plein de raisons, prend en compte que parfois des mariages sont loupés et qu'il n'aurait pas dû exister, et c'est pour cela qu'on entame des procès en reconnaissance de nullité, pour voir qu'il y a des mariages qui ne pouvaient pas exister au départ, et c'est un grand acte de miséricorde de l'Église et de Dieu que de reconnaître et de prendre au sérieux ce que je disais tout à l'heure, l'homme, pour lui dire, mais en fait, dans ce mariage, tu n'étais pas vraiment engagé, on le prend en compte, on te libère. Ce que Jésus dit à Pierre, ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. On te libère pour que tu puisses refaire, entre guillemets, ta vie dans un mariage vrai et entier.
Alors, comment est-ce qu'on va faire justement pour sauver son ménage, pour renouveler peut-être l'amour, pour se reconstruire, une fois que l'acte a été posé, que tout le monde le sait, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir?
Moi, à mon avis, des fois, justement, c'est l'occasion d'une vraie reconstruction. Parce que finalement, chacun, quand il y a eu ça, une tromperie, c'est toujours une provocation. En réalité, c'est toujours destiné, bon, quand c'est pas quelque chose de symptomatique et d'addictif, une tromperie ordinaire, c'est toujours une provocation, c'est toujours destiné au couple. Et justement, ça peut être l'occasion d'une vraie reconstruction. C'est-à-dire d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de faire comme si tout allait bien et de reconstruire et de parler et vraiment de se réengager. C'est souvent, d'ailleurs moi ce que j'ai vu, c'est souvent la possibilité d'une deuxième chance. Alors ce qui est dommage, c'est que c'est passé par la tromperie, c'est-à-dire que la personne a préféré prendre sur soi la faute pour essayer de sauver l'autre et pour que l'autre réagisse, c'est-à-dire que c'est pas responsable, c'est-à-dire que la personne ne s'est pas posée de questions, ne s'est pas posée en adulte et n'a pas fait face à l'autre et ne lui a pas dit les choses. Mais c'est souvent l'occasion d'une remise en question, d'une réouverture et d'une possibilité de fonder une relation à l'autre sur d'autres bases. Parce que finalement, une relation à l'autre, c'est pas seulement deux sexes différents, c'est deux personnes différentes. Quand on est avec deux personnes différentes, forcément il y a des malentendus, forcément il y a des attentes différentes, Et il y a quelque chose qu'il faut que je dise, c'est que finalement, ce qu'on attend de l'autre, c'est être aimé. Et parce qu'on ne sait pas aimer. C'est très dur d'aimer. En fait, ce qu'on veut, c'est être aimé. Et bizarrement, même quand on est aimé, souvent, on ne l'accepte pas. Souvent, on ne l'accepte pas. On n'accepte pas d'être aimé. Et il faut apprendre à recevoir, pas seulement à donner. Et pourquoi il y a des gens qui n'acceptent pas d'être aimés? Et c'est une grande majorité. Parce que, regardez, finalement, souvent, les couples, ils préfèrent courir après l'amour qu'accepter de recevoir. Et vous voyez, souvent, on entend, il me colle, il me dit, j'en ai marre, j'en peux plus, et tout. Pourquoi on a du mal à être aimé? On a du mal à être aimé, d'autant que ça réveille un manque d'amour d'avant.
Alors moi j'ai envie de dire, d'abord moi je suis très très épatée, si je peux, en admiration, devant certaines personnes qui ont été trompées par leur conjoint et qui viennent en consultation pour comprendre. Il y a cet appétit de comprendre, de faire la lumière, avec parfois une vraie remise en cause personnelle, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent, mais moi je veux comprendre quelle est ma part. Et moi j'admire beaucoup, parce que dans cette démarche, ils reconnaissent que le lien conjugal, ça se construit à deux. C'est pas l'autre sans moi, c'est pas l'autre est totalement... Alors tout à l'heure on a parlé de culpabilité, de responsabilité. Ok, l'autre est responsable, c'est lui qui a posé l'acte, lui ou elle, hein, qui a posé l'acte de la tromperie. Mais n'empêche que le lien conjugal, on est co-responsable. Et donc moi, j'ai une part. Et ça, c'est très admirable de la part du conjoint trompé de faire ce travail, d'aller identifier quelle est ma part. En même temps, on le disait au début, dans un couple, on est deux. Donc... lorsqu'il y a comme ça une maladie du couple qui est l'infidélité, il faut aller voir d'où ça vient. C'est-à-dire, est-ce que c'est la relation qui était malade? Est-ce que c'est l'homme personnellement qui était malade? Est-ce que c'est la femme enfin, quand je dis malade, qui avait un point personnel à traiter? Et là, il y a plusieurs choses. Il y a soit l'un des conjoints, soit le lien conjugal qui est malade, soit des événements extérieurs à la vie qui peuvent venir affecter le lien conjugal. Et c'est le travail du thérapeute d'aller démêler ça pour aider ce qui a besoin d'être soigné. Voilà.
Père Cédric Burguin.
Moi, je voulais compléter en disant que, parce que je pense que c'est important de le dire, que le pardon est possible. J'en ai vu, j'en ai accompagné, souvent des situations dramatiques, et le pardon est possible. Alors, le pardon, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même un pas énorme. Eh bien, justement, ce pardon est possible quand tout au long de sa vie de conjoint, on s'est habitué à se pardonner. J'aime bien une phrase de l'abbé Pierre que je vais me permettre de vous redonner, qui disait « Aimer, c'est être assez humble pour montrer ses faiblesses devant l'autre et que l'autre ne s'en serve pas pour en faire une force sur soi. » Si le couple, progressivement, tout au long de sa vie, depuis le départ, s'est habitué à se pardonner régulièrement les petites infidélités du quotidien, eh bien, le pardon sera, entre guillemets, plus facile quand il sera gros, parce qu'il y aura eu cet habitus, comme dit saint Thomas, cette vertu positive à pardonner tout au long de sa vie. Par contre, les couples qui n'arrivent pas à se demander pardon, qui n'arrivent pas à reconnaître les petites blessures du quotidien, auront plus de mal à se pardonner quand viendra le moment d'une grosse infidélité. Et donc, il y a une éducation du couple dans le pardon. Et puis, pour finir, c'est pour ça que je fais une toute petite pub rapido, mais c'est que on doit être encore plus sérieux aujourd'hui dans l'Église, dans les préparations au mariage. Parce que
c'est quelque chose que vous évoquez dans vos préparations.
Mais je l'évoque tout le temps dans les préparations. Parce que je suis persuadé aujourd'hui qu'on n'a pas suffisamment pris en compte, on l'a un peu évoqué au cours de cette émission, toutes les incapacités et les difficultés qu'ont les jeunes à s'engager dans la fidélité. Et or, aujourd'hui, trop souvent, on prépare au mariage comme il y a 20 ans. En partageant sur un texte d'évangile, etc. Bon, ce qui est très bien, partager sur un texte d'évangile. Mais on ne prend pas suffisamment en compte toutes ces incapacités et on ne donne pas suffisamment toutes les armes aux jeunes couples pour s'engager dans la fidélité. Parce que le pardon, ça n'est pas simple. Parce que ça s'éduque. Et parce qu'il faut apprendre à nourrir son couple. On a dit aussi au cours de cette émission que souvent l'adultère pouvait être causé par plein d'infidélités dans le couple, on n'a pas suffisamment passé de temps ensemble. Aujourd'hui, dans nos vies trépidantes, où le travail prend énormément de place, où les loisirs prennent énormément de place, où on passe son temps scotché devant sa télé, quelle est la place pour mon couple? Quelle nourriture j'ai donnée à mon couple? Voilà toutes ces questions qui permettent justement de vivre une éventuelle infidélité pour aller jusqu'au pardon et rebondir dans une vie de couple complètement renouvelée.
Alors, on a une dernière question, auditeur Marie, vous êtes en ligne avec nous de Vincennes, bonjour.
Oui, bonjour. Je salue le Père, je vous salue, vous mesdames, et je voulais vous dire assez rapidement, parce que je vois l'heure qui tourne, tout d'abord, Radio Notre-Dame a été mon meilleur psychothérapeute à un moment de ma vie où, précisément, au bout de 40 ans de mariage, mon mari s'est égaré. Et nous nous étions promis, au moment où nous nous sommes mariés, d'être toujours loyal l'un avec l'autre. Nous n'avions pas exclu la possibilité d'être tenté et d'aller au-delà de la tentation, mais nous avions toujours dit que nous nous en parlerions et que nous aiderions celui qui avait des difficultés sur ce point.
Marie, je me permets de vous presser un petit peu. Est-ce que
Or, il s'est avéré qu'un jour mon mari a craqué et ce que je n'ai pas supporté, ce qui a été une douleur infinie, qu'il est un peu moins maintenant parce que ça remonte à 7 ans que nous avons 70 ans. Mais c'est cette trahison est, comme disait votre intervenante de mots croisés que j'ai beaucoup écouté, je ne m'explique toujours pas pourquoi. Et il se trouve que mon mari ne s'explique pas pourquoi il a sombré.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Marie pour ce témoignage. Je vais laisser réagir Béic Lussereau.
J'ai pas grand chose à dire, sauf que effectivement dans la vie il y a des choses qu'on ne comprendra jamais, même avec un gros travail sur soi, ça reste un mystère. Et je crois que les époux dans la vie, en avançant avec l'âge, font cette expérience que l'autre est de plus en plus un mystère pour moi. On croit en début de mariage que on se connaît très bien, que on a fait plus ou moins le tour de l'autre, et en fait plus la connaissance de l'autre s'approfondit, plus on s'aperçoit qu'il nous échappe. Et là, il y a quelque chose du mystère de la liberté, devant lequel on est impuissant et en même temps qui nous pousse à aimer toujours plus loin. Voilà, qui fait que nos limites de l'amour sont appelées à se mettre à la suite de la fidélité du Christ.
Elsa Cayette, vous avez un petit mot à rajouter ?
Bah oui, justement, c'est pas dans la maîtrise. C'est toute l'histoire, c'est de sortir de la maîtrise et d'apprendre à être libre l'un envers l'autre. Mais libre, ça veut dire pouvoir parler, pouvoir échanger et analyser, pouvoir analyser ces... Même cette blessure, vous voyez, par exemple, elle dit cette dame douleur. Ben voilà, c'est ça, d'où vient le leurre ? Qu'est-ce qu'elle a attendu de lui ? Qu'est-ce qu'elle a mis sur lui ?
Père Cédric Burger, ouais. Mot de la fin.
Le mot de la fin, c'est que toute la lumière sera faite dans la miséricorde avec Dieu, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Si on s'engage dans le mariage en étant humble et en se sachant capable d'infidélité, j'allais dire, le combat est pratiquement gagné parce qu'on se sait pauvre et on se sait humble et du coup, on peut avancer.
Eh bien écoutez, un grand merci à tous les trois d'être intervenus sur cette antenne. Béic Lussereau de Mots Croisés à Paris, Elsa Cayette, psychanalyste et Père Cédric Burguin, professeur à l'Université catholique, l'Institut catholique de Paris. Je vais y arriver. Merci de votre fidélité. À demain.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
Pour ne rien perdre d'essentiel dans l'actualité littéraire, théâtrale et artistique, rien n'échappe à la critique de Paul Salina et de ses chroniqueurs.
Au cinéma ce soir, Patrick Brion.
On a mis la barre très très haut.
Côté théâtre, Valérie Beck, bonsoir.
Un Cyrano de Bergerac.
Et un Cyrano de plus.
J'ai vécu ce calvaire, effectivement, pour vous.
Des goûts et des couleurs présentés par Paul Salina, c'est tous les vendredis à 19h sur Radio Notre-Dame.
Il est fissuré. La